Merci. Donc, je vous remercie sincèrement de m'avoir proposé de participer à votre séminaire et de pouvoir échanger avec vous sur le développement de la mémoire, donc au regard de votre expertise à la fois pédagogique, technologique et tenant compte de ces nouveaux outils. Donc, je voulais aborder avec vous la gestion de la multimodalité, donc dans la création du souvenir et plus précisément dans le souvenir épisodique, qui participe largement à l'identité donc de chacun d'entre nous. Comment formons-nous un souvenir? Donc, après avoir abordé les différentes formes de mémoire qui participent donc à la formation de ces souvenirs, je verrai avec vous le développement de ces formes de mémoire et comment ces mémoires peuvent participer donc aux apprentissages et à la mémorisation de certaines composantes plus particulièrement. Donc, comment forme-t-on des souvenirs spécifiques? Tout d'abord, avec l'illustration qui vous est proposée ici, vous voyez que la première chose qui se fait, c'est de percevoir. Donc, nous allons finalement encoder donc une trace perceptive dans ce qu'on qualifie la mémoire perceptive, ou je devrais dire les mémoires perceptives, puisqu'on va prendre en compte toutes les modalités sensorielles, que ce soit visuelles ou auditives, par exemple. Donc, trace perceptive qui sera transmise dans un autre système de mémoire qui est la mémoire du sens, la mémoire sémantique. Donc, ces informations perceptives, on va leur donner du sens, à savoir, là, pour ce qui est des attentats du 11 septembre, ce que c'est qu'une explosion, une tour, un avion, les trois associés, les inférences qu'on peut en faire également. Et puis, l'ultime étape sera de former donc un souvenir spécifique, propre à l'individu. Donc, j'ai appris ces attentats à un moment donné, dans un contexte donné. Donc là, en l'occurrence, en regardant la télévision. Donc, on va y associer des détails qui sont extrêmement spécifiques et du coup différentes composantes, le quoi, le où, le comment, qui demandent donc de créer une trace multimodale intégrant ces différents détails. Si je reprends maintenant ces mémoires, et tout d'abord les mémoires perceptives, ces mémoires perceptives vont prendre en charge les représentations sous la forme perceptive, des stimulations qui vont composer notre environnement, et ce donc à un niveau pré-sémantique. Alors, ces traces pourront être accessibles de manière automatique ou largement discuté, inconsciente, donc plutôt automatique. Donc c'est ce qu'on appelle les effets d'amorçage. Donc le fait de voir une information ou d'entendre, de percevoir une information va faciliter son traitement ultérieur, et ce de façon automatique. Donc cette empreinte perceptive peut également être accessible de façon consciente, et lorsqu'on rappelle un souvenir, on va avoir de nombreuses images en tête qui vont nous permettre donc de reconstituer donc cet événement. La mémoire sémantique, c'est la mémoire qui va concerner une grande partie de nos apprentissages, puisqu'elle stocke nos connaissances générales sur le monde, mais aussi autobiographiques. Connaître sa date de naissance, la date de naissance de ses enfants, les adresses, mais même savoir que généralement, enfant, j'allais à la plage chez mes grands-parents, ce sont autant de connaissances donc qui sont stockées dans ce système de mémoire. Cette mémoire, elle est associée à la conscience noétique, donc cette conscience de l'existence du monde, et qui nous permet de travailler sur ces représentations indépendamment de leur présence. Donc, ce qui n'est pas possible chez l'enfant très jeune, mais qui progressivement va se développer. Et puis, donc ce dernier système de mémoire, qui est le plus riche, qui apparaît le plus tard au cours du développement, mais qui est du coup également le plus sensible à la fois à la pathologie, mais aussi aux effets de l'âge, c'est la mémoire épisodique. Donc cette mémoire des événements personnellement vécus, situés dans un contexte donné, spatial, temporel, qui est émaillée de multiples détails, de et qui rend possible un voyage mental au travers du temps, donc du présent vers le passé, qui fournit finalement un espèce de fil d'Ariane qu'on va suivre pour pouvoir se promener donc dans notre vie, donc présent, passé, mais qui va nous permettre aussi de construire, d'envisager, planifier le futur. Puisque notre mémoire ne nous sert pas uniquement à ressasser, mais également à envisager donc l'avenir. Donc cette mémoire épisodique, elle implique l'identité du sujet, elle s'inscrit également dans le temps, et on peut, alors je suis désolée parce que certaines informations ne sont pas présentées sur leur PowerPoint, parce que ne passaient pas, donc un problème de compatibilité, donc je vais essayer d'enrichir un petit peu la diapositive. Donc, cette mémoire épisodique, elle va comprendre à la fois des caractéristiques très objectives, le où, le quoi, le quand, le qui, etc., mais aussi une sphère beaucoup plus subjective, donc les émotions, puisqu'un souvenir étant une reconstruction, eh bien, la personnalité, l'identité, les émotions perçues, l'humeur, ce sont autant de facteurs qui vont modifier, influencer notre mémoire, le fonctionnement de notre mémoire, à un moment donné. C'est-à-dire que non seulement deux événements vécus, un événement vécu par deux personnes différentes sera mémorisé de façon différente, par un enfant et un adulte en fonction des intérêts, de leurs intérêts respectifs, cet événement sera mémorisé de façon différente, mais il sera aussi restitué une première fois, voire une seconde fois, de façon différente. Donc cette sphère subjective, elle est extrêmement importante à prendre en compte quand on travaille avec la mémoire ou sur la mémoire. Alors, c'est ce qu'on a voulu évaluer dans notre laboratoire par notamment une étude chez l'adolescent, donc sur les liens entre émotion et mémoire. Et pour cela, on a présenté à une soixantaine d'adolescents de 12 à 15 ans trois types d'images à mémoriser, des images qui tout à fait neutres, des images ayant une connotation suscitant finalement une émotion négative par l'interprétation qu'on peut en faire, le sens, et puis une image qui, là encore, suscite une émotion négative, mais plutôt par les détails donc propres à l'image, inhérents à l'image. Donc, on a pu proposer une série de chaque à ces adolescents et regarder donc leur capacité de reconnaissance de ces différentes images mélangées à des nouvelles. Et ici, vous avez sur l'histogramme donc les performances de ces adolescents, donc reconnaissance de ce que j'appelle les cibles, donc les images déjà vues, neutres, négatives, conceptuelles, donc basée sur le sens, et puis négative perceptive. Et puis, vous avez les performances aussi par rapport aux distracteurs, c'est-à-dire les bons rejets, c'est-à-dire l'adolescent qui a dit « Non, je n'ai pas vu cette image, et effectivement, cette image est nouvelle. » Donc, ce qu'on peut voir, c'est que concernant ces images négatives, vous avez un profil différent. Les cibles sont bien reconnues dans les deux cas, mais ce qui est intéressant de constater, c'est que les distracteurs, eux, sont moins bien rejetés. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entre ce qu'ils ont vu et ce qu'ils n'ont pas vu. En d'autres termes, ces images vont activer, vont entraîner la création d'une trace, d'un sens qui va, du coup, rendre confus toutes les images qui seront de près ou de loin associés à ce sens, qui porteront ce sens. Donc, un effet finalement assez négatif sur la mémoire. Et puis, dans un second temps, nous avons approfondi donc ce résultat en demandant pour toutes les images que les adolescents avaient vues si ils se rappelaient de l'épisode, du moment où ils avaient vu ces images. Donc, cette fois-ci, un souvenir extrêmement clair de ces images. Et ce qu'on peut voir, tout simplement, c'est que, cette fois-ci, ce profil s'inverse. Ce sont les images négatives, mais plutôt perceptives, donc qui utilisent des détails particuliers, qui sont les mieux rappelées. Donc vous voyez que finalement, deux types d'images qui sont censées susciter une émotion négative vont avoir des effets opposés sur la mémorisation. Tantôt bénéfiques, tantôt, au contraire, plutôt négatifs, en entraînant une confusion des traces. Phénomène qui est par ailleurs tout à fait normal. Alors, ces différentes mémoires décrites, mémoire perceptive, mémoire sémantique, mémoire épisodique, je vous ai parlé de la formation d'une trace épisodique, mais à l'inverse, cette mémoire épisodique contribue également à l'acquisition de nouvelles connaissances. Donc, contribue à la fois par le biais des inférences. Donc, j'ai vécu un événement particulier et je vais pouvoir donc en inférer des connaissances sur le pays, sur les habitudes, etc. Et puis, se souvenir également, par exemple, d'erreurs que j'ai pu faire lors de la séance d'apprentissage et que je vais éviter de reproduire lors de la séance suivante. Et puis, d'autres processus également que nous qualifions de sémantisation, par notamment la fréquence, c'est-à-dire que le fait de répéter un épisode d'apprentissage va renforcer le contenu, la connaissance, et va effacer tous les détails propres à chaque épisode, mais aussi donc l'oubli, tout simplement, de certains détails qui va finalement faire émerger uniquement la connaissance liée à l'épisode. Ce sont des exemples d'interaction entre mémoire épisodique et mémoire sémantique, mais bien sûr, vous en avez d'autres. Alors, cette mémoire épisodique, elle est importante pour acquérir des connaissances, mais il est possible tout de même d'acquérir des connaissances sans avoir cette mémoire, en tout cas, qui fonctionne de façon normale. Et c'est ce qu'on a montré chez différents enfants amnésiques, dont une petite fille, ici, de 7 ans, qui présentait une atrophie bihippocampique, donc majeure. Vous voyez ici, vous avez une coupe coronale, où normalement se trouve l'hippocampe. Et cet enfant présentait donc une amnésie importante, que vous avez illustrée ici par ses performances en rappel de dessin, à peu près à 10 minutes après avoir vu ce dessin. Donc vous voyez qu'elle a des problèmes amnésiques important. Et malgré tout, grâce à un paradigme adapté, on a réussi à lui faire acquérir de nouvelles connaissances que vous voyez ici en rouge. Donc les performances de KF fluctuent, notamment dues à ces crises d'épilepsie. Mais malgré cela, on voit clairement qu'elles évoluent favorablement. Donc on a une acquisition significative de nouvelles connaissances. Alors, la mémoire épisodique, ici vous avez les contrôles, vous voyez qu'elle participe quand même, elle favorise l'acquisition de ces connaissances. Mais malgré tout, quand on n'en a pas, on peut quand même acquérir des connaissances dans un contexte favorable, bien sûr. Qu'en est-il maintenant au niveau du développement de ces formes de mémoire ? Donc, j'ai voulu vous illustrer juste une partie donc, des composantes, de l'évolution des composantes de la mémoire épisodique, ces composantes plutôt objectives, à savoir le quoi, donc le où et le quand. La mémoire du quoi, là, renvoyée à l'acquisition d'associations, de paires, donc d'associations de même modalité, un animal, une photo d'animal avec une caractéristique. La mémoire du « où », association, mais entre deux modalités, un animal et une localisation spatiale. Et la dernière, donc un animal, et cette fois-ci une localisation temporelle, donc une succession. Et ce qu'on peut voir de façon schématique, c'est qu'ici, donc quand on propose ces tâches à des enfants âgés de 6 à 10 ans, on peut voir que ces différentes composantes évoluent de façon différente. Enfin, concernant la mémoire du quoi, on a un effet plateau assez rapidement. En revanche, concernant la mémoire du « où », on a une évolution linéaire. Et puis, ce qui est également intéressant, la mémoire du « quand », on a un décrochement autour de 9 ans et une augmentation des performances. Donc, vous voyez que clairement, en fonction de l'information qu'on va demander et l'association qu'on va demander, les performances évolueront de façon très spécifique. Si on continue, donc cette fois-ci on s'intéresse à la période d'adolescence, ici vous avez donc la représentation des résultats chez des adolescents, donc enfants et adolescents, sur cette partie de la courbe. Vous voyez là encore que les trajectoires sont différentes en fonction des composantes, le quoi, le où et le quand. Mais ce qu'il y a de plus intéressant, c'est finalement, notamment ici, vous voyez pour le quand, c'est cette variabilité interindividuelle. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, on est confronté, notamment, à une grande variabilité interindividuelle. Et cette variabilité, elle peut résulter de facteurs qu'on peut objectiver, qu'on peut quantifier, identifier, mais elle résulte aussi de facteurs qui sont plus difficiles à identifier. Donc, parmi les facteurs identifiables, on a l'effet du genre. C'est-à-dire que les filles et les garçons, alors, c'est pas à vous que j'expliquerai cela, mais clairement, ont des comportements différents. Et si on s'intéresse aux performances mnésiques, on peut voir qu'au cours de l'adolescence, les performances des filles diminuent, alors que celles des garçons atteignent un plateau. Donc, au-delà des arguments physiologiques, neuroanatomiques, affectifs, il y a sans doute multitude de facteurs qui restent à identifier. On connaît le dimorphisme sexuel au niveau donc, fonctionnel et structural, au niveau du cerveau. Il y a encore beaucoup de choses à évaluer. Mais je pense qu'effectivement, c'est un domaine de recherche qui va donner lieu à de nombreux travaux. Et puis, on s'est intéressé aussi au niveau de performance, c'est-à-dire comment évoluent les enfants et les adolescents qui sont finalement le plus en difficulté. Est-ce qu'un enfant en difficulté à 6 ans aura les mêmes performances qu'un enfant en difficulté de 10 ans ou de 15 ans? Eh bien, non, on peut voir clairement ici que lorsqu'on regarde les performances qu'on a qualifiées de groupes de mauvais, mais il faut effectivement faire attention aux étiquettes. Oui. On peut voir qu'il y a un effet de l'âge. Donc, ce qui est plutôt très encourageant, les performances évoluent avec l'âge. En revanche, les bons, donc, n'évoluent pas avec l'âge. Donc, pour terminer, du coup...
Pardon, je suis désolé.
Non, bien sûr. C'est... On a approfondi cette question en regardant ce qui se passait chez 30 adolescents au niveau donc neuroanatomique de la structure, cette fois-ci cérébrale, et des liens entre structure et performance. Et on peut voir que chez ces mauvais, en fait, ces stratégies de mémorisation dépendent de la maturation donc de certaines structures, donc, notamment d'accord. Une structure qui est extrêmement importante pour nous, c'est
notre ami Luc Rosil.
Allô, pardon, excusez-moi.
Bernard,
non, je suis là.
Oui.
Oui.
Merci. Tu veux intervenir? Tu veux poser une question à Bérangère?
Non. Il y a un point qui m'a surpris, c'est quand elle disait que les garçons avaient des performances qui plafonnaient, que les filles avaient des performances qui diminuaient. C'est bien ce qu'elle a dit.
Oui. Oui, oui. Et ce n'est pas un résultat qui est nouveau. C'est-à-dire que d'autres études, deux études notamment, l'ont démontré à la fois avec un matériel verbal et non verbal. Donc en l'occurrence, la figure de Ray et le rappel des 15 mots de Ray.
Et il y a une explication particulière?
La signification, aujourd'hui, c'est un résultat que je vous livre qui est tout récent, donc j'ai encore du mal à l'expliquer. Ce que je peux dire, c'est qu'effectivement, on a des différences au niveau de la maturation de la structure, maturation des stratégies, des fonctions, enfin fonctionnelles au niveau cérébral qui existent entre les garçons et les filles. Maintenant, il y a toute une sphère que je ne maîtrise pas, c'est la sphère effectivement affective et environnementale. Donc les deux conjugués, je pense que ça pourrait expliquer cette baisse d'engagement ou d'utilisation peut-être de stratégies moins optimales, tout simplement.
D'accord, tu peux mettre la clé. Merci. Bérangère, vous terminez, vous concluez?
Oui, donc en fait, Tout ça pour dire
sans,
que...
Sans support visuel, puisqu'on va couper, oui. Il va pouvoir installer. Tu peux installer la
diapo. Je voulais juste terminer avec cette diapo sur la maturation cérébrale, puisque au cours du développement, cette maturation est extrêmement importante. Et il faut souligner aussi qu'on a des périodes, des fenêtres de vulnérabilité où on a des baisses de performance. On l'a vu à la fois en électrophysiologie, en IRM, enfin, dans différents domaines. Et ces baisses de performance sont dues à ces phénomènes de réajustement qui s'opèrent à différents moments au cours du développement et que des variables, et notamment environnementales, pourraient juste réorienter ces ajustements d'une façon ou d'une autre. Et donc là, ça reste encore à étudier.
Bravo, merci.